Nous allons à présent étudier un livre, un des livres les moins connus de la Bible. Beaucoup de commentateurs parlent même d'un livre négligé. Il s'agit du livre des Lamentations. Alors je sais, le titre n'est pas très enthousiasmant. C'est un livre de pleurs. C'est un livre triste. Déjà, ça peut nous refroidir. On se dit que la vie chrétienne devrait être joyeuse, toujours joyeuse. L'apôtre Paul le dit, réjouissez-vous toujours. Nos cultes sont des célébrations et on veut célébrer Dieu et sa fidélité. D'ailleurs, ce cantique vient du livre des Lamentations. Mais sinon, on connaît mal ce livre. S'il faut toujours se réjouir, s'il faut célébrer Dieu, pourquoi un livre rempli de pleurs? Mais je crois que ce livre fait partie des bontés et des grâces de Dieu envers nous. Il y a quelque temps, je lisais un livre qui s'appelle « Comment lire un poème ?» Et je trouvais ce chapitre intéressant sur la tristesse et le deuil. Et l'auteur Edward Hirsch dit ceci, « Nous vivons dans une culture superficielle, dominée par les médias, qui semble souvent mal à l'aise avec la véritable profondeur des sentiments. En effet, il semble que notre culture soit devenue de plus en plus intolérante à l'égard de cette douleur aiguë, de cette angoisse mentale intense, de ce profond remords que l'on peut définir comme le chagrin. Nous voulons médicaliser la douleur, nous voulons la diviser en étapes reconnaissables afin que le deuil puisse être étiqueté, apprivoisé, éradiqué. Mais les poètes ont toujours célébré le deuil comme l'une des émotions humaines les plus profondes. La poésie sous-entend implicitement que les chagrins peuvent approfondir l'âme, que le deuil ne rétrécit pas nos cœurs, plutôt il permet de les élargir. » Vous trouvez ça, c'était beau. Et nous allons retrouver cette beauté dans le livre de Lamentations. Alors je vous invite avec moi à lire le premier chapitre. Je pense que ça vous sera utile de l'avoir le texte sous vos yeux, dans vos bibles, sur votre téléphone. Nous allons lire tout le chapitre 1. Il y a 5 chapitres. Nous allons survoler un peu l'ensemble du livre ce matin. Mais je vous lis le chapitre 1. Lamentation, chapitre 1. Et quoi ? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées. Elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont trompés, car l'Éternel l'a humiliée à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenue de tous les biens qu'elle possédait autrefois, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Ses ennemis l'ont vu, ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité, elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire, il cherche du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture afin de ranimer leur vie. Vois l'Éternel, regarde comme je suis avili. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez, voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une longueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités, elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force, le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi, il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi. Celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, peuple, voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis, ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs, mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages, au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi, que toute leur méchanceté vienne devant toi, et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Un chantier mémorable sur Toulouse récemment aurait été le déplacement du monument aux morts vers François Verdier, en vue de l'arrivée de la troisième ligne de métro. Mais justement, ils n'ont pas dit « la troisième ligne arrive, on rase le monument et on remplace avec le métro ». Non, ils ont dit « ce monument est important, on va le préserver ». Donc, ils ont déplacé pour travailler, ils vont le remettre a priori. Ce monument aux morts qui rappelle les morts dans déjà la Première Guerre mondiale et puis par la suite. Et on peut dire que le livre de Lamentations est aussi un monument aux morts, un monument de cet événement catastrophique qui a frappé le pays, notamment la destruction de Jérusalem en l'an 586 avant Jésus-Christ, la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Nous avons étudié cette année un peu les événements qui ont conduit à cette destruction dans le livre des rois, et puis le prophète Jérémie a averti tout cela pendant des années, mais la catastrophe est tombée. Pour le peuple juif, c'était un peu la plus grande catastrophe de l'Ancien Testament, et il faut dire que sur le plan géopolitique, c'est une catastrophe dont le monde ne s'est pas vraiment remis. Mais ce livre sert de monument, de souvenir, pour rappeler ces moments et pour donner expression à la douleur, à la peine. Ce livre sert de souvenir pour accompagner le peuple juif, mais non seulement le peuple juif, mais aussi le peuple chrétien, à travers les drames et les épreuves de la vie. Ce livre est écrit pour être intégré dans une liturgie, dans un culte, dans une vie de foi, une vie de prière. Donc tout ça, ça nous parle. Quand la société est en ruine, quand Dieu semble absent, quand la bêtise humaine est à l'origine de la souffrance, quand les enfants innocents sont victimes, quand les abus font ravage, quand le peuple de Dieu est persécuté, quand on a l'impression qu'il n'y a pas de consolation, eh bien ce livre est là pour nous. Ce livre montre que Dieu n'attend pas à ce qu'on fasse semblant que tout va bien. Dieu n'attend pas à ce qu'on nie la douleur du deuil. Dieu n'attend pas à ce qu'on enfuit les souvenirs. Mais au contraire, ce livre, c'est la preuve qu'il est là pour les entendre, les accueillir, les inspirer. Il y a ce beau verset dans les psaumes 56, verset 8, qui dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Toutes nos larmes sont comme inscrites dans le livre de Dieu, sont comme accueillies dans son outre. Et on peut dire que le livre des Lamentations est vraiment, est justement cela, un recueil des larmes inscrites dans le livre de Dieu. Un recueil de larmes qui nous aide à trouver notre chemin dans ce monde déchu. Même quand il faut errer, parfois, il dit, tu comptes les pas de ma vie errante.
mais tu recueilles mes larmes. Et donc, quand nous devons errer parfois dans le désert de la douleur, Dieu nous accompagne. Et il nous a donné sa parole, et dans sa parole, nous trouvons ce genre de texte, Lamentation. On va trouver des choses pareilles aussi dans les psaumes, mais ce genre de texte nous accompagne et nous aide à savoir que Dieu est là et avec nous. Donc, j'aimerais vous montrer un peu la beauté de ce livre, malgré le contexte catastrophique. Il y a une certaine beauté dans ce livre qui représente aussi la grâce de Dieu pour nous. C'est pour ça que j'ai donné le titre de ce message et de ce livre, « Torrent de larmes et de grâce ». Vous connaissez peut-être le cantique qui parle des torrents d'amour et de grâce. Oui, Dieu verse des torrents d'amour et de grâce dans notre vie. Ici, c'est un livre où on trouve des torrents de larmes, mais il y aura aussi la grâce de Dieu. Et je dirais que la beauté de ce livre, en trois points, c'est un cadre dans le chaos. Ce sont des pleurs dans nos prières. Et enfin, ce sont des solutions en suspens. Donc nous allons voir ce matin, tout d'abord un cadre dans le chaos de la vie. La première chose à remarquer, quand vous étudiez, quand vous lisez Lamentation, qui apparaît moins bien en français, mais c'est la forme, en fait c'est un poème. Lamentation, le livre des Lamentations, est un poème hyper bien structuré. C'est le plus long poème de la Bible, ce qui est déjà marquant. Et c'est en fait c'est 5 poèmes mis ensemble, donc les 5 chapitres chacun est un poème et le tout ça forme un ensemble. Et il faut dire que chaque chapitre, sauf le dernier, est un acrostiche avec toutes les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et le chapitre 3, que nous allons étudier la semaine prochaine, qui est au cœur du livre, le travail est triplé, c'est-à-dire chaque verset, il y a 3 versets, et donc chaque verset et 3 phrases reprend les lettres de l'alphabet. Donc pour vous donner un exemple, j'ai repris le verset 1, chapitre 1, verset 1, et je l'ai mis un peu dans ce forme. Vous savez que c'est très difficile de traduire la poésie et en général, on n'essaie pas dans les traductions de nos bibles, on rend la chose plutôt de manière littérale. Mais s'il fallait traduire un peu de manière poétique, il commence chaque phrase avec la lettre de l'alphabet et puis il continue. Donc ça donnerait un peu « Ah, comme elle est assise, solitaire, la ville jadis peuplée, abandonnée, la reine des villes est désormais veuve, aujourd'hui réduite à l'esclavage, brisée, elle pleure la nuit, ses larmes coulent sur ses joues, bien qu'entourée d'amants, aucun ne la console, bannie, trahie par ses amis, devenue captive, capturée, exilée, Judas habite parmi les nations. » Donc vous voyez un peu le style. C'est comme ça que la poésie hébraïque fonctionne, surtout. Nous, on fonctionne avec des rimes, et mettre... L'hébreu aime l'acrostiche. Et il fait ça pendant, il faut le faire, hein, 22 lettres de l'alphabet fois 4 sur l'ensemble du livre, c'est un gros travail. Et j'aimerais vous montrer, dire que en fait, la forme de ce livre véhicule un message. C'est souvent le cas dans l'art et de la poésie, la forme déjà véhicule un message. C'est-à-dire tout autour est chaotique. La ville est en ruine, mais ce livre, inspiré du Saint-Esprit, n'est pas chaotique. C'est très cadré. L'auteur lui-même ne s'abandonne pas complètement au chaos. Et il structure ses pensées. Et le message est là, déjà là, quand on se tourne vers Dieu, même si on n'a pas toutes les réponses, ça nous donne un cadre dans le chaos. En faisant ses poèmes de A à Z, c'est comme s'il reconnaît que Dieu peut entendre toutes nos plaintes de A à Z. Notre Dieu, qui s'appelle l'alpha et l'oméga, Jésus, l'alpha et l'oméga, de A à Z, ça c'est en grec, ici on est en hébreu, mais notre Jésus, il est l'alpha et l'oméga, et il peut entendre toutes les plaintes, toutes les situations difficiles de la vie de A à Z. Connaissez la boutique en ligne qui s'appelle, je pense, Amazon. Leur logo, c'est A à Z pour dire qu'ils vendent tout. Mais ici, le A à Z, c'est pour dire que oui, il y a une quantité de souffrance et d'épreuves et de drames dans la vie. Mais je peux tous les présenter à Dieu. Dans la Bible, c'est ça que je trouve beau, que ce soit les Lamentations ou les Psaumes ou aussi la vie de Jésus, vous trouverez un alphabet complet, un vocabulaire complet
pour toutes les expériences humaines, pour toutes les émotions, pour toutes les tragédies que nous pouvons traverser, eh bien, la Bible peut les entendre, les comprendre, nous accompagner. La Bible nous donne ce cadre, même dans le chaos de la vie. Ce livre, vous savez, décrit des scènes affreuses, des fois avec un langage même choquant, comme nous allons voir, mais on reconnaît quand même, de manière poétique, une richesse, une profondeur dans cette poésie. D'ailleurs, un jour, j'avais cherché sur Google le plus beau poème en langue française, et la réponse qui revient souvent, c'est le poème de Victor Hugo qui s'appelle « Demain des lobes ». De quoi parle le plus beau poème en langue française ? L'amour romantique ? La nature ? Non, ça parle du deuil, ça parle de la perte d'un enfant. C'est curieux qu'on arrive à trouver une beauté dans ces circonstances, mais voilà le cadre que Dieu apporte. Tout comme un poème cadre les émotions pour les embellir, pour les enrichir, eh bien Dieu lui-même est ce cadre pour nous dans le chaos de la vie quand on se tourne vers lui. Bien sûr, dans les moments de tristesse, de tragédie, on peut s'éloigner de Dieu, mais du coup, on ne fait qu'augmenter le chaos dans nos cœurs. Mais aussi, on peut se rapprocher de lui, même si on a l'impression qu'il n'est pas là, même si on a l'impression qu'il n'entend pas, même si on a l'impression qu'il ne console pas, de se tourner vers lui, c'est déjà, selon Lamentation, une démarche qui apporte un cadre. Et finalement, notre connaissance de Dieu et de sa grâce peuvent même s'agrandir dans les moments de deuil et d'épreuve. Telle est l'expérience de beaucoup de personnes. Et puis, je trouve qu'il y a un petit encouragement pratique aussi dans ce cadre poétique, dans les moments de grande angoisse, de dépression, de tristesse. Je pense qu'il y a un encouragement à ne pas abandonner tout cadre de vie. Peut-être, et je sais que c'est dur en ces moments, mais Jérémie, c'est bien l'auteur de ce livre. C'est catastrophique et pourtant, il s'adonne à de l'écriture soignée d'un poème. C'est un encouragement pour nous dans les moments difficiles de ne pas abandonner tout cadre, peut-être écrire ce que vous vivez, même si vous avez l'impression d'être franc ou de une petite discipline d'écrire, peut-être manger et dormir à des heures fixes, peut-être faire un peu de sport, marcher, lire un peu la Bible si vous arrivez. Maintenez la rencontre hebdomadaire avec les chrétiens, tous ces petits cadres de vie peuvent nous accompagner, même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas ce qui se passe. Eh bien, Dieu offre ce cadre dans le chaos. Et je trouve que c'est beau. Donc, c'est déjà le premier message de Lamentation, c'est que, quand on a l'impression que tout est chaotique, on a quand même un Dieu qui est là, qui reste fixe et qui cadre nos émotions. Ensuite, nous allons voir la beauté de ce livre, c'est aussi des pleurs dans nos prières. Vous l'avez entendu dans le premier chapitre et ça continue dans les autres, mais souvent il est question de larmes et de prières. D'ailleurs, l'expression « torrent de larmes » revient plusieurs fois. Mais je reviens au chapitre 1 et on se plonge maintenant vraiment dans l'image qui domine chapitre 1. L'image qui domine chapitre 1, c'est une femme, en fait, qui pleure. Et cette femme qui pleure, en fait, elle représente, elle symbolise la ville de Jérusalem et ce qu'elle a vécu lors de la destruction par les Babyloniens. Donc j'affiche mieux peut-être l'image. Ça, c'est une statue, c'est un monument aux morts à Volgograd, chez les Russes. C'est l'image d'une mère qui pleure son enfant mort qui était parti à la guerre. Donc c'est une réalité, une mère qui pleure son enfant qui tombait sur le champ de bataille. Mais on en fait un statut pour représenter, cette mère représente la patrie et la perte de tous ses enfants à la guerre. Et c'est un peu ce que nous trouvons ici, sauf que c'est pire. Alors, chapitre 1 de Lamentation, l'image, c'est une femme qui pleure.
Mais au fil du texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jérusalem est présentée tantôt comme une reine qui a perdu sa royauté, verset 1, une veuve qui a perdu son mari, une mère qui a perdu ses enfants, une fille qui a perdu ses amis, une femme qui a été abusée, violée, une prostituée rebelle. Et toutes ces images sont mélangées dans ce chapitre 1. Et dans toutes ces images, il y a non seulement la douleur physique de la chose, mais il y a une notion de honte. Une veuve qui n'a plus de son mari, une femme qui a été violée, une prostituée. Donc on comprend qu'elle pleure. J'ai apprécié ce que dit Christopher Wright pour commencer son commentaire sur Lamentation. Il dit « C'est peut-être parce que je suis un homme, mais peu de choses sont plus émouvantes qu'une femme en larmes, sanglotant pour exprimer une douleur ou une perte désespérée. » Et ça, c'est l'image qui domine Lamentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, beaucoup pensent que c'est Jérémie qui a écrit Lamentation. C'est pas sûr, il signe pas son écrit, mais peut-être c'est Jérémie. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas au blâme. Jérémie, dans le livre qui porte son nom, avait beaucoup dénoncé le péché du peuple. Il avait averti le peuple. Mais ici, c'est pas vraiment, le livre n'est pas accusateur. Il montre plutôt comment pleurer, comment prier avec larmes et pleurs et contrition. C'est vrai que cette femme, qui est image du peuple, elle reconnaît en partie sa faute, souvent, vous l'avez entendu, j'ai été rebelle à ses ordres. Mais elle reconnaît aussi que ce qu'ils ont fait, c'était tort, elle est victime. Et elle a du mal à comprendre qu'il n'y a pas de consolateur. Et ça, je trouve aussi utile pour nous. Parfois, on va traverser des épreuves où c'est complètement notre faute et on peut pleurer de repentance. Parfois, on va traverser des épreuves où c'est complètement la faute de l'autre et on va pleurer en tant que victime. Et parfois, c'est un mélange des deux. Mais Lamentation nous accompagne dans chaque cas. Et puisque ce livre est inspiré de Dieu, puisque ce livre est destiné à la liturgie, puisque ce livre c'est aussi des pleurs, quand tu as dit « Ô Éternel, vois ma misère !» Eh bien, c'est que quelque part, ces pleurs et ces larmes sont justifiés aux yeux de Dieu, sont accueillis, sont bienvenus, sont légitimes, sont valorisés. Et justement, ce livre introduit dans notre culte, dans notre vie personnelle, culte collective, ce livre enseigne une forme de prière spécifique qu'on pourrait appeler lamentation. Il y a des prières d'adoration, il y a des prières de confession, il y a des prières de reconnaissance, il y a des prières d'intercession, et puis il y a aussi les prières de lamentation. Selon une définition que je trouve utile, la lamentation est une prière que les gens adressent au Dieu souverain lorsque leur vie ne correspond pas à ce qu'ils savent être vrai à son sujet, ou lorsque la venue de Jésus, la venue de la justice ou la venue des promesses de Dieu semble être retardée. Je relis sa définition que je trouvais édifiante. La lamentation est une prière que les gens adressent au Dieu souverain lorsque leur vie ne correspond pas à ce qu'ils savent être vrai à son sujet, ou lorsque la venue de Jésus, la venue de la justice ou la venue des promesses de Dieu semble être retardée. C'est une prière dans la douleur qui mène à la confiance. Et donc, on distingue peut-être une lamentation de juste pleurer. Ça, on sait faire. Juste se plaindre. Ça, on sait faire. Mais il y a quand même plus dans ce livre. Il y a le choix quand même de se tourner vers Dieu. Et il y a le choix de la confiance, même sans avoir des réponses. C'est faire le choix de cheminer avec Dieu dans la douleur vers l'espérance. C'est ça la lamentation. Et on peut remarquer que oui, plus d'un tiers des psaumes sont des prières en tonalité mineure qui donnent une voix à la douleur de la vie. Pourtant, la plupart des chrétiens méconnaissent cette façon de prier. Nos chants d'assemblée et nos prières paraissent bien légers face à la complainte, parfois. Donc, ce livre équilibre des fois la vie chrétienne. Oui, tout est joie, tout est célébration, espérance. Mais Dieu sait très bien que dans la vie, il y a aussi les pleurs font partie des fois de notre foi, de notre culte, de notre expérience. Jésus a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent. » Le livre de l'Ecclésiaste dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » Pourquoi il dirait ça ? « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. » Ben oui, parce que souvent on apprend plus au sujet de la vie, aux obsèques, que dans une boîte de nuit. Notre foi est souvent mieux éveillée, mieux approfondie dans les moments de deuil que des moments de fête. Donc, apprendre à pleurer dans nos prières n'est pas une mauvaise chose en soi. Parfois, il faut pleurer sur notre propre péché. Mais c'est une bonne chose si cela conduit vers la consolation de la grâce, de la salut de Dieu. Comme c'était le cas, Jérémie veut accompagner encore son peuple. Ce peuple doit aussi passer par la repentance pour revenir à Dieu. Donc ce livre donne aussi une expression à cette repentance. Oui, beaucoup de ces malheurs nous sont arrivés parce que Dieu est juste, parce que nous avons été rebelles. Même si ça n'explique pas tout, ils ont vécu des drames qui peut-être allaient au-delà de juste ce que méritait leur compréhension du péché. Mais il fallait passer par la case repentance, et donc ce livre les aide. Donc parfois il faut apprendre à pleurer sur notre propre péché, mais si ça nous pousse vers la grâce de Dieu, heureux ceux qui pleurent ainsi. Parfois, il faut pleurer sur les injustices autour de nous. Et c'est une bonne chose si cela conduit à aimer davantage, à servir davantage, à prier davantage, à continuer à annoncer l'évangile de Christ comme la seule réponse aux problèmes de ce monde. Ce que nous sommes appelés, l'Église, encore aujourd'hui. Les infos de... presque toujours, mais on a l'impression que particulièrement de nos jours, sont pas réjouissantes. Et il y a des sujets qui nous font pleurer, on peut pleurer avec les mots, avec l'attitude de lamentation. Certaines choses sont aussi même pas annoncées dans les infos. Par exemple, le Nigeria est actuellement le pays le plus touché au monde par les violences contre les chrétiens, disent un rapport du parlementaire européen. Il y a plus de chrétiens qui sont tués en Nigeria que tous les autres pays ensemble. Ce genre de sujet aussi peut nous faire pleurer. Mais si c'est pour continuer à prier, pour prendre un soin de la mission, pour faire ce qu'on peut ici accueillir, eh bien, heureux ceux qui pleurent ainsi. Donc oui, la beauté de ce livre, c'est un cadre dans le chaos. Ça valorise les pleurs dans nos prières comme une expression de notre foi que Dieu accueil. Et enfin, ce livre nous laisse des solutions en suspens. Mais ça aussi, ça fait partie de sa beauté et de sa pédagogie. J'ai dit qu'il y a ces cinq poèmes, c'est un grand poème avec cinq poèmes ensemble. Tous les poèmes sont des acrostiches, sauf le cinquième qui ne l'est pas. C'est comme quoi l'auteur termine différemment. L'auteur veut rappeler qu'il doit repartir vivre dans un monde déstructuré, donc il laisse le dernier chapitre un peu déstructuré. Le livre termine, si vous voulez prendre maintenant chapitre 5, toute fin. Je ne vous ai pas lu tous les chapitres ce matin, donc j'ai lu le premier chapitre et je peux vous lire la fin maintenant. Chapitre 5, verset 20, 21-22. Voici comment termine le livre. Dites-moi s'il y a une fin heureuse. 5, 20. Pourquoi nous oublierait
tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Point d'interrogation. Voilà la fin du poème. Le livre termine avec des questions en suspens. Le livre termine avec un point d'interrogation. Est-ce que Dieu, tu es encore là? Est-ce que tu vas nous rejeter pour toujours? Bonne question. C'est vrai qu'il y a des magnifiques passages en chapitre 3, c'est un peu le sommet du livre, et donc on réserve le chapitre 3 pour la semaine prochaine. Et ces passages-là dans chapitre 3 poussent à la foi, rappellent les grandes vérités sur Dieu. Mais puis chapitre 5, 4 et 5 reviennent sur le désarroi, les larmes, les pleurs, le désastre. Et puis si vous prenez l'ensemble de ce livre, bon, plusieurs ont remarqué que contrairement au livre de Job par exemple, Dieu ne prend jamais la parole à la fin pour apporter sa réponse, son point de vue. C'est une prière, on s'adresse à Dieu, mais on n'entend pas vraiment la réponse de Dieu. Alors, que penser de tout ça? Bien justement, ce livre, Lamentations, et sa fin, reflètent le chemin de l'épreuve que nous traversons beaucoup en ce moment. Cette fin, cette manière de terminer le livre, montre aussi comment faire confiance à Dieu lorsque l'avenir immédiat reste incertain et difficile. Bien souvent, la solution est en suspens pour l'épreuve que vous traversez aujourd'hui. Et bien souvent, dans la vie chrétienne, on a le pourquoi, on veut poser pourquoi, on n'a pas la réponse. Quand est-ce que viendra la fin de l'épreuve? On n'a pas cette réponse. Jusqu'à quand? On n'a pas la réponse. Et ce livre reflète cette réalité. Mais, tout en encourageant la confiance, malgré cette fin en suspens, il y a quelques points d'ancrage qui laissent entrevoir la solution et qui portent le peuple de Dieu à travers les siècles. Déjà, je ne vous ai pas lu, mais verset 5-19, quand même une belle confession de foi. « Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. » Quand Jérémie écrit cela, à l'heure il écrit, personne ne semblait sur le trône. C'est-à-dire, le pays promis, le trône de David, tout est saccagé, tout est renversé. Personne ne semblait sur le trône. Le descendant de David, le roi davidique, est en prison. Mais il peut quand même dire, il s'attache à cette promesse, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Donc il saisit quand même les grandes promesses de l'Ancien Testament, qu'il y aura toujours quelqu'un sur le trône, que Dieu règne en toutes circonstances. Et puis il prie en verset 21, ça vous l'avez entendu, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. C'est une très belle prière de la Bible. Fais-nous revenir et nous reviendrons. Si Dieu nous fait revenir, nous reviendrons. Et la suite de la Bible raconte justement cette histoire, comment Dieu fait revenir son peuple à lui. Et pour cela, Jésus lui-même a quitté son trône, ce trône éternel, pour faire revenir son peuple. Et il vient, il cherche son peuple, telle une épouse. Il va la consoler, la prendre dans ses bras, pour la rendre belle, pour la consoler. En chapitre 1, c'est ce refrain qui revient, « Personne ne me console, personne ne me console, personne ne me console. » Et puis, un jour, le roi, le descendant de David vient pour prendre, pour en faire de son peuple une reine, une épouse, pour consoler pour toujours. Il donne sa vie pour elle, à la croix, pour qu'elle ne soit jamais abandonnée, pour qu'elle soit consolée pour toujours. Et Jésus, par la croix, par sa résurrection, il fait de son peuple une épouse fidèle, une mère féconde, une reine glorieuse. C'est ainsi que termine la Bible en Apocalypse, en parlant de cette Jérusalem renouvelée, la nouvelle Jérusalem qui représente aussi tout son peuple, élargie maintenant au-delà des frontières pour inclure tous les
racheté, tous les croyants, vous aussi. Et je termine avec ça, il y a une scène très belle à la fin des évangiles, très touchante. C'est notre histoire à tous, c'est l'histoire de Lamentation. Et il y a une femme en pleurs dans un jardin. Marie est en pleurs. Sa vie, c'est vrai, avait été chaotique, catastrophique même. Jésus avait chassé 7 démons. Elle est devenue disciple de Jésus. Mais là, il a été crucifié et sa vie est replongée dans le chaos. Et c'est des lamentations, c'est des pleurs. On l'a chanté. La tristesse envahit tout son être. Mais dans ce jardin, ce Jésus vient. Et jusque-là, personne ne la console, il n'y a pas de disciples, il n'y a personne, elle est toute seule. Mais Jésus vient et Jésus ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit juste son nom, Marie. Juste ça. C'est la solution à tous ces problèmes. Jésus ressuscité est l'ultime solution à toutes nos larmes, parce que c'est l'épreuve que oui, il peut restaurer, il peut nous faire revenir, et il va le faire, ce qu'il a fait pour Marie, ce qu'il fait au sens plus large pour toute son Église, et nous tous ce matin, si nous venons à lui, on aura l'impression que parfois les solutions sont en suspens, mais si Jésus dit notre nom, s'il nous parle personnellement, s'il nous fait savoir qu'il est vivant de manière personnalisée, comme il veut bien appeler chacun de nous par notre nom, eh bien, ça, il y a de quoi là à sécher toutes les larmes et nous faire repartir dans la foi. En attendant son retour, que Dieu nous aide à traverser cette vie errante, sachant qu'il accueille nos larmes, il les agrée et il veut nous garder dans la confiance et la foi, dans ses promesses. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour les moments agréables de la vie, les joies, les plaisirs, le bonheur. Ça vient de toi et ce serait dommage de t'oublier dans ces moments. Et donc, si tout va bien ce matin, pour plusieurs, que nous soyons dans la reconnaissance, dans la joie. Nous savons que tu aussi nous fais passer par des moments difficiles, douloureux. Et nous te prions que dans ces moments aussi, ce ne soit pas l'occasion de t'abandonner, t'oublier, mais que ces moments servent à nous rapprocher de toi, à savoir que nos larmes, nos peines, nos douleurs, tu les connais. Même dans la Bible, nous avons comme cette expression complète, ce vocabulaire complet de tout ce que tous les malheurs que peuvent connaître un cœur humain. Mais tu connais plus que connaître, tu es venu en Jésus-Christ pour les vivre, pour les connaître, pour les traverser. Et aujourd'hui, tu peux, comme nul autre, tu peux nous consoler, tu peux nous aider, tu peux nous accompagner, tu peux nous donner l'espérance. Nous te prions que nous repartions avec cette confiance en toi. Tu peux nous faire revenir à toi. Alors encore ce matin, c'est notre prière. Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.